Chapitre 29. Continuation de l'histoire de l'illustre infante de Micomicon. Beau discours de Don Quichotte. Tandis que ses époux heureux remerciaient le ciel d'un bonheur qu'il regardait comme un songe, tandis que le sage curé, le bon maître Nicolas, les félicitait du fond de leur cœur, et que l'aubergiste lui-même assurait qu'on lui paierait son vin, se réjouissait avec tout le monde, le seul Sanchot s'affligeait en secret de voir ses espérances détruites, son petit royaume à volo, la princesse de Micomicon devenue une Dorothée et le géant un Don Fernand. Notre pauvre écuyer, fort triste, alla gagner en soupirant la chambre de Don Quichotte qui venait de se réveiller. « Votre seigneurie peut se rendormir, dit-il d'un ton lamentable. Elle n'a plus de géant à tuer ni de royaume à rendre à la princesse. Tout cela est fait et conclu. » « Par Dieu, je le crois, répondit son maître. Jamais combat ne fut plus terrible que celui que j'ai livré à cet énorme géant. D'un revers, j'ai fait voler sa tête, et le sang qui sortait du tronc coulait à mes pieds par torrent. « Oui, monsieur, je sais fort bien que vous avez tué une outre de vin que l'aubergiste nous fera payer, et que vous avez inondé la chambre de 6 arobes de ce vin rouge. Quant à la tête de géant, je vous conseille d'y renoncer. Le diable l'a emporté, ainsi que bien d'autres choses. » « Que dis-tu, Sanchot ? As-tu perdu le sens ?
Oh, j'ai perdu mieux que cela.
Levez-vous, levez-vous, monsieur, vous allez voir de belles choses, à commencer par la reine, qui est transformée à présent en une demoiselle Dorothée. Oh, nous avons fait de bonnes affaires depuis 2 heures. Rien ne peut m'étonner, ami, dans cette fatale maison, où tout ce qui arrive est enchantement. »
Sanchot aida son maître à s'habiller. Et pendant ce temps, le curé instruisit Fernand et Lucinde de la folie de Don Quichotte, des aventures qui lui étaient arrivées et des moyens qu'ils avaient été forcés d'employer pour le tirer de la roche pauvre. Don Fernand, diverti par ce récit, voulut que Dorothée continuât son rôle et ramenât le chevalier dans son village qui n'était plus qu'à 2 journées de chemin. Dans ce moment, notre héros parut, armé de pied en cap, le bouclier au bras gauche, l'armée de mandrins sur la tête et soutenue par sa lance. Don Fernand, surpris, admira cette extraordinaire figure, ce visage d'une aune de long, sec, noir, jaune, décharné, ce plat à barbe, ces armes bizarres, cette gravité noble et fière avec laquelle Don Quichotte adressa ses paroles à Dorothée. « Jeune beauté, que le malheur semble encore rendre plus touchante, je viens d'apprendre par mon écuyer que votre Altesse s'est un peu ravalée, que de haute et puissante reine, elle est devenue en un moment une simple particulière. Si le fameux roi Nègrement, qui vous a donné la naissance, a fait cette métamorphose, dans la crainte que mon bras ne pût vous rendre votre empire, j'ose assurer que ce sorcier-là ne savait pas bien deviner. Pour peu qu'il eût versé dans les histoires de chevalerie, comme j'ai l'honneur de l'être, il aurait su que tuer un petit géant n'est pour nous qu'une bagatelle. Si je ne dédaignais de me vanter, je pourrais dire qu'il n'y a pas 2 heures que cette épée a fait couler. « Tout mon vin !» cria l'aubergiste, à qui Don Fernand ordonna de se taire. « Il suffit, reprit Don Quichotte, je veux bien ne rien approfondir et me borner à vous répéter qu'il est encore temps, princesse déshéritée. Dites-moi un mot, et dans peu de jours, tous vos ennemis abattus vous serviront de degré pour remonter sur votre trône. » « Seigneur, répondit Dorothée avec autant de grâce que de sang-froid, n'ajoutez aucune foi à ceux qui vous ont dit que j'étais changée. Je suis celle que j'étais hier. Il est vrai pourtant que mon cœur, jusqu'à ce jour flétri par le chagrin, vient de trouver des consolations qu'il n'osait, hélas, espérer. Mais je n'en suis pas moins la même. Je n'en attends pas moins mon salut de votre invincible bras. Et je compte dès demain me remettre en route avec vous. Ne doutez donc plus, je vous prie, de la science de mon père. Jamais il ne l'a mieux prouvé qu'en m'ordonnant de venir vous chercher. Ma reconnaissance aime à publier, et ces messieurs le diront comme moi, que c'est à votre rencontre que je vais devoir mon bonheur. » À ces paroles, Don Quichotte, se tournant vers son écuyer, lui dit d'un ton irrité. « Petit Sanchot, vous le voyez ? J'acquiers chaque jour de nouvelles preuves que vous êtes le plus grand maraud de l'Espagne. Répondez, monsieur le vaquin. »
Où aviez-vous pris, s'il vous plaît, que cette princesse était devenue une demoiselle nommée Dorothée, que j'avais tuée des outres de vin, que le diable avait emporté la tête du géant et mille autres impertinences que vous êtes venu me dire? Morbieu! Je ne sais qui me retient de faire sur vous un épouvantable exemple, qu'il fasse trembler à jamais tous les écuyers menteurs.
Apaisez-vous, s'il vous plaît, répondit humblement Sancho. Je peux fort bien m'être trompé sur les affaires de madame la princesse, et je ne demande pas mieux. Mais pour la tête du géant et les outres de vin, monseigneur verra ce qui est grand quand il faudra frire les œufs, c'est-à-dire payer le mémoire.
Cela suffit, reprit don Fernand. Ne nous occupons que de madame la princesse, qui ne doit repartir que demain. Passons la nuit dans ce château le plus gaiement que nous pourrons, et lorsque l'aurore paraîtra, nous nous ferons tous un honneur de suivre le seigneur Don Quichotte pour être témoins de ses exploits et de ses actions.
Vous le serez de mon zèle à vous servir, répliqua notre héros, et de ma reconnaissance pour la bonne opinion dont vous m'honorez.
Le jour avait disparu, et par les soins de Fernand, un excellent souper était prêt. Tout le monde se mit à une longue table, la seule qui fût dans l'auberge. Malgré les refus de Don Quichotte, on lui donna la place d'honneur. Il voulut que la princesse dont il était le gardien fût mise à ses côtés. Ensuite venaient Lucinde, le curé, maître Nicolas, et vis-à-vis, don Fernand, Cardenio et les cavaliers amis de Fernand. Le souper fut agréable. Don Quichotte le rendit tel. Dès le commencement du repas, promenant sur tous les convives des regards de satisfaction, « Messieurs, dit-il, n'êtes-vous pas frappés comme moi du hasard admirable qui réunit dans ce lieu des personnes aussi importantes, aussi rares, aussi justement illustres que nous le sommes? Sans détailler en particulier le mérite de chacun de vous, qui pourrait deviner en vous voyant que cette dame assise auprès de moi est cette grande reine que nous savons et que je suis ce chevalier de la triste figure dont la renommée daigne s'occuper assez souvent. À qui devons-nous, messieurs, la réunion de tant de merveilles? À la chevalerie errante, noble profession, que ses travaux, que ses périls élèvent au-dessus de toutes les autres. Je ne suis point un barbare, je respecte et j'aime les lettres, mais gardons-nous de leur donner la prééminence sur les armes, ni même l'égalité. L'homme de lettres, il est vrai, instruit, éclaire ses semblables, adoucit les mœurs, élève les âmes et nous enseigne la justice. Belle et sublime science. Le guerrier l'a fait observer. Son objet est de nous procurer le premier, le plus doux des biens, la paix. La paix, si aimable, si nécessaire au bonheur, que le meilleur, le plus grand des maîtres bornait toutes ses instructions, toutes ses récompenses terrestres et ses consolantes paroles. Que la paix soit avec vous. Cette paix, bien adorable, présent divin, source du bonheur. Cette paix est le but de la guerre. Le guerrier travaille à nous la donner. C'est donc le guerrier qui remplit l'emploi le plus utile au monde.
On écoutait notre héros avec attention et plaisir. La plupart des convives, étant militaires, trouvaient que Don Quichotte était fort loin de parler et de raisonner comme un fou. Sancho, derrière lui, avait beau lui dire de manger, et qu'il prêcherait ensuite, le chevalier, se voyant applaudi, continua de la sorte. Examinons à présent si les travaux de l'homme de lettres peuvent se comparer à ceux du guerrier. Je conviens que le premier, presque toujours misérable et quelquefois persécuté, manque souvent du nécessaire, essuie les outrages de l'ignorance, les dures atteintes de l'envie. Je lui tiens compte du malheur d'être forcé par le besoin de s'en aller grossir la cour de l'insolente opulence, de lui prostituer son talent, de lui sacrifier sa fierté. Mais enfin il dort, il travaille, il philosophe librement dans sa petite chambre mal meublée, et méprise l'orgueil des riches en faisant tout seul un frugal repas. On a vu même, par des hasards bien rares à la vérité, l'homme de lettres parvenir, à travers un chemin âpre et long, à la place qu'il a méritée. La fortune, toute surprise de l'avoir favorisée, le fait jouir des richesses, des commodités de la vie, du crédit et de la puissance. Il oublie alors ses peines passées et se voit presque aussi heureux que s'il était un ignorant. Le guerrier souffre plus que lui, plus pauvre encore, plus malheureux. La neige est son lit dans l'hiver, il n'a point d'abri dans l'été. Mourant de fatigue, de faim, esclave de l'heure qui sonne, il faut qu'il soit prêt à tous les instants.
Il court de péril en péril, reçoit blessure sur blessure, et son sort n'en est pas meilleur. Je ne parle point de la mort qui le menace sans cesse. On se donne à peine le temps de compter ceux qu'elle a moissonnés. Je ne parle que de ceux qui, par miracle, lui échappent, qui, sortis hier d'une bataille, marchent aujourd'hui sur un terrain miné, le savent et s'y arrêtent en attendant le moment de sauter. De ceux qui, dans une galère, accrochent la galère ennemie, vont à l'abordage le pistolet d'une main, le sabre de l'autre, environnés de l'abîme, ne voyant devant eux que des bouches tonnantes et s'avançant sur une planche teinte du sang de leurs compagnons. Quelle sera leur récompense? L'oubli. L'homme de lettres a 2000 rivaux, le guerrier vainqueur en a 30 000. L'État ne peut le payer. Il le sait, il n'en sert pas moins. Il vole aussi rapidement au-devant de ces feux terribles, de ces machines meurtrières que l'enfer vomit de son sein, afin de faire expirer le brave sous les coups éloignés du lâche, afin d'étendre la valeur, si la valeur pouvait s'éteindre. Invention affreuse et maudite, qui seule me fait connaître l'effroi, qui seule m'a souvent causé des regrets d'avoir choisi le noble exercice de la chevalerie errante. Il est affreux qu'un peu de poudre suffise pour donner le trépas à celui de qui l'épée mettrait en fuite plusieurs escadrons. Mais que mon destin s'accomplisse, ma gloire en sera plus grande, puisque j'affronte plus de périls que les chevaliers des siècles passés. » Don Quichotte se tut et mangea. Tous ceux qui l'avaient entendu regrettaient sincèrement qu'un homme qui avait tant d'esprit et qui parlait si bien perdît tout à coup le bon sens dès qu'il s'agissait de chevalerie. Le curé, en applaudissant au discours qu'il venait de faire, lui dit que malgré son état d'homme de lettres, il était entièrement de son avis. On acheva de souper, tandis que l'hôtesse et Maritorne préparaient la chambre de notre héros, afin que les dames ensemble puissent y passer la nuit. Don Quichotte s'offrit pour garder le château contre les enchanteurs malins ou les scélérats de géants qui seraient tentés d'enlever les trésors de beauté qu'il renfermait. On accepta son offre avec reconnaissance. Sancho, qui se désolait de voir que toutes ces conversations empêchaient qu'on se couchât, alla s'étendre et dormir sur l'excellent bât de son âne, bât qui devait bientôt lui coûter cher. Notre chevalier, monté sur Rocinante et armé de toutes pièces, sortit de l'hôtellerie pour faire sa ronde. Tout dormait dans l'hôtellerie, excepté la fille de l'hôte et la servante Maritorne, qui, connaissant l'humeur de Don Quichotte, résolurent de s'en divertir, tandis qu'il faisait la garde autour des murs du château. Ce château n'avait d'autre fenêtre d'un côté des champs qu'un grand trou donnant dans le grenier, par où l'on jetait la paille. Nos deux demoiselles montèrent à ce trou, d'où elles aperçurent notre héros à cheval, appuyé sur sa lance, levant de temps en temps les yeux au ciel et poussant de profonds soupirs. La fille de l'aubergiste l'appela doucement à elle avec des signes mystérieux. Notre héros, qui à la clarté de la lune l'aperçut au trou du grenier, y vit aussitôt une grande fenêtre avec des jalousies à treillis d'or, derrière lesquelles la belle demoiselle, fille du seigneur châtelain, venait lui demander d'avoir pitié de son amour. Le chevalier, trop courtois pour refuser un simple entretien, conduit Rocinante sous la jalousie et en s'approchant le plus près possible. « Qu'il m'est douloureux, dit-il, ô jeune et charmante personne, de ne pouvoir payer votre tendresse que d'une stérile reconnaissance. Prenez-vous-en au destin, qui dès longtemps m'a rendu l'esclave du seul maître que je puisse servir. Demandez-moi toute autre chose, beauté que je plains, que j'honore. Demandez-moi, si vous voulez, une tresse des cheveux de Méduse, ou bien les rayons de l'astre du jour enfermés dans une fiole, je serai prompt à vous satisfaire. « Seigneur chevalier, répond Maritorne, nous n'avons pas besoin de cela. Nous vous prions seulement de nous donner une de vos belles mains pour que nous puissions y déposer un baiser, au hasard d'être haché par le père de demoiselle s'il venait à le savoir. Il s'en gardera, reprit Don Quichotte. Il sait trop quel sort l'attendrait s'il osait porter la main sur les membres délicats de sa fille. » Tandis qu'il parlait, Maritorne préparait tout doucement le licou de l'âne de Sancho qu'elle avait pris à dessein. Don Quichotte, pour arriver jusqu'à la jalousie, monta debout sur Rocinante. De là, étendant son bras au milieu du trou à paille, « La voilà, dit-il, cette main, l'effroi des méchants et l'appui des bons, cette main que jamais femme n'a touchée, pas même celle que j'adore. Je vous la donne, non pour la baiser, mais pour que vous admiriez ses veines, ses muscles entrelacés, et que vous jugiez par eux de la force de mon bras terrible. C'est ce que nous allons voir, reprit la maligne Maritorne, en jetant le nœud coulant qu'elle avait fait au licou sur le poignet de Don Quichotte. Elle tire aussitôt la corde, va l'attacher à la porte et quitte le grenier avec sa compagne. Don Quichotte se sentant pris et ne voyant plus personne, commence à craindre que cette aventure ne soit encore un enchantement semblable à ceux qu'il avait éprouvés dans cette fatale maison. Il se reprochait sa confiance et tirait tant qu'il pouvait son bras, dont il serrait davantage le nœud. Debout sur la selle de Rocinante, le poignet arrêté dans le trou à paille, il tremblait que son cheval ne fît quelque mouvement et ne le suspendît au mur. Heureusement, la tranquille bête ne remua non plus qu'une bûche et paraissait disposée à rester un siècle sans remuer. Don Quichotte, désespéré, mugissait comme un taureau furieux et ne doutait plus en voyant la parfaite immobilité de son coursier qu'ils ne fussent enchantés ensemble jusqu'à la fin des siècles. L'aurore parut enfin. Quatre chevaliers armés d'escopettes arrivèrent à l'hôtellerie. Ils frappèrent à coups redoublés en demandant qu'on leur ouvrît. « Chevalier, c'est où écuyer ? » cria Don Quichotte de dessus son cheval. « Ignorez-vous qu'on ouvre les forteresses qu'après le lever du soleil ? Éloignez-vous des glacis, attendez qu'il fasse grand jour. Alors on verra si l'on peut vous introduire dans ce château. » « Que diable voulez-vous dire avec votre forteresse et votre château ?» répond un des cavaliers. « Faut-il tant de cérémonies pour entrer dans un cabaret ?»« Si vous êtes le cabaretier, faites-nous ouvrir et donnez-nous un peu d'avoine, c'est tout ce que nous voulons. »« Tâchez d'y voir et de parler mieux. Ai-je l'air d'un cabaretier ?»« J'ignore quel air vous avez et je ne m'en soucie guère. » Alors, sans écouter davantage les discours de notre héros, les cavaliers frappèrent plus fort et réveillèrent l'aubergiste qui se leva pour ouvrir. En ce moment, Rocinante avance de quelques pas pour se dégourdir. Au premier mouvement qu'il fait, les pieds de Don Quichotte quittent la selle. Notre héros tombe le long du mur et serait descendu jusqu'en bas sans le licou qui le retenait fortement par le poignet. La douleur qu'il éprouva fut d'autant plus vive que son maigre corps, s'allongeant par son poids, arrivait presque jusqu'à la terre qu'il rasait de l'extrémité de ses pieds. Le désir de s'y appuyer lui faisait faire des efforts qui augmentaient ses souffrances. Il en jetait des cris affreux, et l'aubergiste qui les entendit se pressa davantage d'aller à la porte.